France Inter.
Attention sur le département de Seine-et-Loire. Plus de vigilance pour orage donc, mais trois départements restent en orange pour risque élevé de feux de forêt. Ce sont les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse du Sud. Plusieurs massifs forestiers sont interdits d'accès et le Var devrait rester en orange demain. Le ministre des Affaires étrangères est à Kiev. Jean-Noël Barrot reste deux jours en Ukraine. Il doit rencontrer son homologue ukrainien ainsi que la nouvelle ministre et le président Volodymyr Zelensky. Il fera un point sur l'aide apportée à la France, par la France quelques jours après les sanctions sans précédent décidées par l'Union européenne contre la Russie et ses soutiens. L'Union européenne qui reprend les discussions avec Téhéran sur le programme du nucléaire iranien. Une nouvelle séance de discussion est prévue en fin de semaine à Istanbul, en Turquie. Une perte nette de 2,3 milliards pour Stellantis. Le géant automobile a publié ses résultats du premier semestre 2025 ce matin. Il explique cette perte par le recul des ventes en Europe et aux États-Unis, par les nouveaux tarifs douaniers en Amérique du Nord et par les charges engendrées par l'arrêt de certains modèles. Le groupe table sur les récentes mesures mises en place pour améliorer les performances et la rentabilité pour redresser la barre au second semestre. Trop gras, trop sucré, trop salé, c'est la journée mondiale de la malbouffe ce lundi pour prendre conscience des conséquences de ce type d'alimentation. Un décès sur cinq dans le monde est attribué à un facteur nutritionnel et la malbouffe favorise l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Chaque année, la France dépense 19 milliards d'euros pour contrer les effets sanitaires et sociaux de ce type de nourriture. En tennis, premier titre pour la Française Loïs Boisson sur le circuit WTA. Elle a fait sensation en juin lors du dernier Roland-Garros. Elle a remporté hier la finale du tournoi de Hambourg sur terre battue. Elle conserve son titre de numéro 1 française. Et puis en foot, la question du changement de sélectionneur ne se pose pas pour l'équipe de France féminine. Mise au point du président de la fédération, Philippe Diallo, après la défaite des Bleus samedi en quart de finale de l'Euro 2025. Elles ont perdu au tir au but face à l'Allemagne, mais malgré tout, Laurent Bonadei reste en poste.
Cet été, savourez avec France Inter.
On va déguster, c'est tous les jours à 11h.
François-Régis Gaudry.
Recettes, produits et plats iconiques, cuisine du monde et alimentation engagée, artisans de bouche et grande signature de la gastronomie, on vous sert les meilleurs moments de l'émission.
On va déguster.
Tout l'été, on se retrouve de 11h à midi sur France Inter.
France Inter, partenaire de la 3e édition du festival Saveurs et Savoirs d'Uzès, orchestré par François-Régis Gaudry et sa bande.
Nous aurons le plaisir d'accueillir de grandes signatures de la gastronomie pour des rencontres, démos culinaires, grand dîner, séances de cinéma, sans oublier notre concours de la meilleure boulette de France.
3e édition du festival Saveurs et Savoirs, le rendez-vous des passionnés de la gastronomie du 9 au 12 octobre à Uzès. Un événement France Inter.
10h05 sur Inter, grand bien vous fasse l'été avec vous Eva Rock et vous nous invitez à danser aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez danser avec moi?
Oh, écoutez, avec grand plaisir.
Bon alors on attend 11h que vous fassiez le prochain flash et après on voit comment on peut faire ça. Merci beaucoup Anna,
à tout à l'heure.
Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Le souvenir des booms de mon enfance est contrasté. Une joie immense d'être avec les copines, à déconner, à rire surtout. Et ce corps bloqué, ce corps qui ne veut pas aller sur la piste de danse, qui a peur de se montrer, de bouger, qui craint la moquerie. Des décennies plus tard, le corps est toujours encore un peu raide, mais la danse est entrée autrement dans ma vie, par les autres, les amis qui dansent et exultent devant moi, celles et ceux qui, dans la rue, au gré des manifs, affirment leur identité, celles et ceux qui, dans les ballets auxquels j'ai la chance d'assister, provoquent joie, réflexion et émotion. La danse, elle est là, partout, tout le temps, et pénètre tous les corps. Et vous, aimez-vous danser à la moindre occasion? Quel plaisir y trouvez-vous? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France. Et vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le lundi 21 juillet, vous écoutez France Inter. Grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
C'est moi qui mets de l'ambiance dans Paris. Je fais danser tout le monde. J'arrive, je débarque avec ma valise, avec mon enceinte et mon petit véhicule.
Bonsoir.
C'est parti, tout le monde danse avec moi. Je suis le transporteur de bonheur féminin Scorpion. Je viens, je commence mon show tout seul. Je danse avec une personne, deux personnes, et après trois, quatre, et tout le monde vient danser avec moi.
Les mots du danseur féminin Scorpion, transporteur de bonheur qui adore faire danser les gens dans la rue. Est-ce que tout le monde peut danser? Est-ce que tous les corps peuvent entrer dans la danse? Nous allons poser ces questions à nos invités. Trois grands noms de la danse que je suis très heureuse de recevoir dans ce studio. Bonjour Rachid Oumramdan.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui chorégraphe, directeur de Chaillot, le Théâtre National de la Danse. Vous organisez cet été la Chaillot Colo. Vous allez nous raconter de quoi il s'agit, notamment parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Bonjour Marion Motin.
Bonjour Eva.
Danseuse, chorégraphe, on va revenir aussi sur votre parcours, alors qui passe par le hip-hop, les tournées internationales auprès de stars, des clips devenus cultes et l'Opéra Garnier. J'ai eu la chance d'y découvrir votre création, Lost Call, et j'en garde un souvenir absolument merveilleux. Et puis avec nous aussi, Marion, vous avez d'ailleurs un point commun avec notre dernière invitée, parce que vous êtes toutes les deux normandes. J'espère que je ne dis pas de bêtises, voilà.
Normande.
Je suis normande.
Ah, moi, je suis
downtown. Ah, c'est ça,
ouais. Bonjour Fovoto.
Bonjour, bon matin.
Votre vie ressemble à un tourbillon de projets qu'il est impossible de résumer. Danseuse, chorégraphe, comédienne désormais. Ouais. Le grand public vous a découvert notamment grâce à l'émission Danse avec les stars sur TF1. Alors à tous les trois, j'aimerais débuter avec une expérience du sensible. Fovoto, est-ce que vous pouvez essayer de vous imaginer quand vous vous apprêtez pour la première fois à entrer sur le parquet de Danse avec les stars, d'accord? Quels sont les sons qui vous reviennent en mémoire?
Les sons, en tout cas, je sais qu'il y avait... on devait performer sur une musique de Rihanna, mais c'est surtout le son du cœur, en fait. Tu sais, ça va très très vite, et en fait, c'est comment tu réussis justement à te détendre, trouver le calme pour pouvoir performer le plus simplement et le plus brut possible. Donc c'est toujours cette histoire de... C'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est essayer de trouver sa propre confiance en étant le plus calme possible, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc je crois qu'il faut essayer justement de ne pas juger et surtout de se dire en fait que le travail est fait et que ça va fonctionner. Enfin, tu vois, c'est quelque chose vraiment de l'ordre de la confiance.
Quand vous disiez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est parce qu'on a commencé l'émission avant l'émission en fait, où je disais que mon rapport avec la danse était un peu compliqué, ce que je disais dans l'introduction. Mon corps est encore un peu bloqué, mais on va en discuter justement. Marion Motin, expérience un peu plus difficile, on reste dans le sensible. Mais si on plonge dans vos souvenirs aussi, quand vous êtes une jeune danseuse qui vient de créer sa compagnie, Septième Sens, vous vous produisez notamment dans la rue, dans des centres commerciaux. Quelles sont les odeurs qui vous reviennent en mémoire?
Ah, les voitures. J'avais la langue gonflée. C'est surtout avec Swaggers plus qu'avec Septième Sens. Septième Sens, on répétait... Oui, si, dans des centres commerciaux, mais à l'intérieur. À l'intérieur, à Italie 2. Donc, c'est le sol du centre commercial, vraiment, ce côté un peu centre commercial, quoi. Et après, la rue, les voitures, la langue gonflée, ouais, quand même.
La langue gonflée à cause de la pollution.
La pollution, ouais, la langue gonflée, donc très soif. Et de la poussière, vraiment, dans la bouche. Et le côté grand magasin des centres commerciaux.
Rachid Oumramdan, si vous fermez les yeux un instant pour vous replonger dans vos souvenirs d'ado cette fois-ci, quand vous découvrez le hip-hop notamment, quelle est la première image qui vous revient, s'il y avait un instantané?
Oh, un tag de Futura 2000 ou peut-être les grosses chaînes que portait Africa Bambaataa qui a vraiment popularisé le mouvement du hip-hop avec la Zulu Nation. C'est quelque chose d'important, surtout pour des jeunes de quartier comme ça, de voir des personnes qui viennent de ce qu'on appelle la périphérie des villes et tout d'un coup avoir un geste artistique puissant, un geste artistique qui fédère, qui agrège. Ça, c'était des grands modèles pour beaucoup, ouais, je crois.
Cet exercice sensoriel, il n'est pas anodin. Rachid Oumramdan, vous disiez à nos confrères de France Culture que la danse, c'est pouvoir rassembler autour d'une qualité du sensible. La danse, c'est ça, c'est une histoire du sensible.
Ouais, je crois déjà la première réponse que vous a fait Fauve, souvent en fait c'est une expérience intime, c'est une expérience intérieure, alors évidemment la danse elle se partage, on la voit, et encore avant de commencer l'émission vous nous parliez de cette difficulté peut-être à s'exposer au regard des autres, mais c'est là que ça vient nous toucher, c'est dans des choses profondément intimes de notre personne, et c'est comment on va réussir à mettre ça en partage. Alors parfois on le fait de façon très spontanée, on a envie d'être en dialogue avec les autres, on a envie de s'exprimer, d'être dans quelque chose de très libre, et puis à d'autres moments, c'est plutôt quelque chose qui va nous enfermer, qui va nous mettre mal à l'aise. Donc c'est comment on arrive avec les autres, avec la musique, avec les lieux dans lesquels on est, à pouvoir faire en sorte que ce ressenti, cette façon d'être qui est vraiment toujours très très intime, ça touche au corps, ça touche à des choses qui nous sont très personnelles, va pouvoir être partagé avec d'autres.
Oui, Fovoto, c'est ce sensible et c'est une histoire d'émotion aussi, parce que souvent on se cache derrière un geste technique, on parle de la technique de la danse, même dans Danse avec les stars et tout ça, mais on le voit bien, c'est quand même au départ une somme d'émotions qu'il faut arriver à transmettre, arriver à vivre intensément aussi.
Alors pour moi je suis beaucoup plus sensible à l'interprétation qu'à la technique, donc j'ai vraiment cette recherche là de base qui est quel va être mon ressenti avant tout, et après je brode la chorégraphie. Et c'est vrai que quand je danse par exemple avec X ou Y sur ce plateau, l'idée c'est du coup d'emmener cette personne avec moi dans mon vocabulaire, dans mon langage. Parce que si je commençais à lui parler que de technique, en fait la personne elle s'emmerde. Et c'est vraiment, en fait, ça ne rentre pas dans son corps. C'est-à-dire que c'est plus je cherche à créer des espèces de métaphores, à créer un ressenti pour cette personne-là, pour qu'après on dessine une espèce de langage commun, tu vois, non parlé.
Ouais.
C'est comme ça que je travaille, moi. Mais après, c'est vrai que moi, je suis très, très, très sensible au ressenti. Ouais. Ouais. Il faut que ça grouille là-dedans. Ouais.
Dans le ventre. Vous êtes en train de montrer votre ventre.
Ouais.
Marion Motin, vous arrivez à couper votre cerveau quand vous dansez ?
Pas toujours.
Pas toujours, ouais.
C'est le but, c'est vraiment mon
mantra. Que vous recherchez, en fait.
C'est ce que je recherche, ouais. Ce moment où je suis pleinement présente et alignée. Et je ne suis pas dans ma tête. Je déteste danser en étant dans ma tête, parce que du coup, je n'ai pas l'impression de danser. Et ma recherche.
C'est quoi, vous recherchez une sorte de plénitude quasiment en dansant ?
Plénitude, on s'oublie et en même temps on s'oublie pas du tout, parce qu'on est pleinement conscience de chaque cellule du corps et de ce qui est en train de se passer.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, parce que souvent on dit la danse ça peut être un abandon de soi, mais moi j'ai l'impression qu'au contraire c'est prendre conscience de soi, réellement.
En fait, c'est vraiment se réaligner, se reconnecter à l'état dans lequel on est, à ce qu'on est profondément... À l'intérieur.
Et alors, a priori, tout le monde peut danser, et pourtant, tout le monde ne danse pas. Ou tout le monde n'arrive pas à danser. Comment vous expliquez cela ?
Oh, c'est culturel. C'est culturel. Je pense qu'on est dans une société, principalement, en tout cas, je vais parler de l'Europe, où la danse, c'est de l'entertainment ou de la culture, mais c'est pas de la culture... C'est pas la culture familiale ou la culture des racines. Et donc, on danse plus. Donc, il y a quelque chose de démonstratif ou de niche. Et on a moins accès au côté danse naturelle, parce que juste, ça fait du bien et que ça fait plaisir.
Oui, Rachid Oumradan, vous avez une très belle expression. Vous dites qu'il faut faire déborder la danse de la scène, que la danse, elle doit prendre place dans notre quotidien, c'est ça?
Oui, mais la danse, elle est partout. Hein. Vous l'avez dit, hein, d'autres propos introductifs, ça peut aller très loin. La danse, elle peut être là pour manifester. On a vu ce mouvement en Iran, de ces femmes qui sont mises à danser dans les rues. La danse, elle est dans le loisir, elle est dans le bien-être. On la retrouve partout. Et je crois, en réalité, moi, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui ne savent pas danser, qui ne veulent pas danser. Je pense qu'on est tous danseurs, tous et toutes danseurs, danseuses. Moi, je ne connais pas une garderie, par exemple, où vous mettez de la musique, où les enfants ne se mettent pas à gigoter. Je ne connais pas... Après, évidemment, on se fait des représentations de la danse. On se dit, c'est quoi le bien danser ? Et on est toujours un peu en écart avec ça. Alors moi, j'ai de la chance, parce que dans mon parcours de danse, j'ai eu la chance que je pense beaucoup ont eu, peut-être Marion Fauve aussi. C'est-à-dire que vous faites une représentation de qu'est-ce que c'est que danser. Vous allez prendre des cours à un moment donné, vous voyez des choses. Vous dites, ah, c'est ça, c'est bon, on voit des grandes danseuses. C'était ça à l'époque autour de moi, voilà, des grandes danseuses modernes. Et puis un jour, on passe une audition, et puis là, personne n'est retenu, sauf moi. Et on me dit, et alors moi, avec qui pensait que j'étais là juste pour prendre un cours gratuit, parce qu'en audition, on ne paye pas. Et voilà, ça fait un plaisir à être là. Et tout d'un coup, je comprends qu'en réalité, souvent, ce qui va être déclencheur, ce qui va même intéresser d'autres, c'est votre singularité, c'est votre façon à vous de faire les choses, c'est votre façon qui est un peu différente. Et ça, j'ai eu la chance de le comprendre là. Et aujourd'hui, c'est tout ce que je fais. À chaque fois que je suis en contact avec un jeune, avec un professionnel, avec un amateur, avec un sportif de l'extrême, avec une personne âgée, j'essaye de voir ce que cette personne a en elle d'expressif au travers de son corps et de lui en faire prendre conscience. Parce que souvent, ben voilà, on a plein de talents, on a plein de choses en soi, mais on n'en a pas conscience parce qu'on est en train de se représenter, on essaye d'être qui on n'est pas ou quelque chose qu'on ne serait pas. Et c'est tout le travail qu'il y a à faire. Et donc, Eva Rock, je suis prêt à prendre un temps avec vous, si vous voulez bien, un jour à Chaillot, pour qu'on parle de tout ça.
Vous savez ce que je vais faire, c'est que, enfin non, je suis trop vieille, mais je pourrais peut-être venir à Chaillot Colo que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce dispositif extrêmement intéressant?
Oui, alors je l'ai développé il y a quelques années avec RL Mel Squad. À l'époque, j'avais une compagniste avant que je sois à Chaillot. On s'est beaucoup inspiré de ce que le chorégraphe Alvin Allais faisait aux États-Unis dans des quartiers ghettos où, par le mouvement, par la danse, ils essayaient de tendre vers plus d'émancipation des jeunes. Nous, ici, ça s'est traduit de la façon suivante. Certains enfants, certains jeunes n'ont pas la possibilité de vivre ce que la plupart appellent des vacances. C'est-à-dire, souvent, les vacances, c'est synonyme de déplacement, de voyage, de découverte d'inconnus, de choses auxquelles on n'a pas accès dans le courant de l'année. Mais malheureusement, tous les enfants ne vivent pas ça. C'est-à-dire que parfois, les vacances, c'est la fin de l'école et on va attendre la rentrée, on ne bouge pas de là où on est. Et on s'est dit, mais comment faire vivre ce qui nous semble être une enfance normale, de pouvoir partir à la découverte d'autres choses, de pouvoir se déplacer, de pouvoir être avec d'autres jeunes. Et on a commencé à mettre en place ces camps de vacances artistiques, donc qui s'adressent plutôt à des jeunes qui viennent d'environnements vulnérables, quoi, qui n'ont pas toujours la possibilité de vivre ces choses-là. Et du matin au soir, ils font l'expérience de la communauté, ils font l'expérience du déplacement, ils font l'expérience de la danse. Et c'est des ateliers du matin au soir dans des lieux où, bien sûr, ils découvrent des façons de bouger, des façons d'être avec les autres. Parce que c'est souvent comme ça que ça doit commencer. D'abord, on met à l'aise en mettant les gens... On développe une certaine aisance à être avec les autres pour ensuite peut-être un peu plus assumer le regard de l'autre. Donc on y va progressivement. Et puis aussi, on les sensibilise aux environnements dans lesquels on est. Parce que c'est toujours, finalement, je pense que pour moi, la danse, c'est se rendre attentif à qui on est, attentif aux autres. Aujourd'hui, il y a cette urgence au regard du dérèglement climatique, être attentif aux environnements. Donc ça peut se passer dans la nature et avec beaucoup de pratiques de corps dans des espaces de plein air. Et ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, on en fait beaucoup, elles s'enchaînent, on en a plusieurs dans l'été. Et on les voit transformer ces enfants. C'est-à-dire, ils arrivent, parfois ils sont un peu intimidés. On en fait aussi à Chaillot, par exemple, au palais, le palais de Chaillot, où se trouve le Théâtre National de la Danse, qui est un palais art déco. Alors ça peut être intimidant pour certaines personnes.
Oui, parce que le lieu est impressionnant.
Il y a cette vue sur la tour Eiffel, etc. Donc on peut être un peu impressionné. Et je vois ces corps souvent de gens un peu courbés. Puis à la fin de la semaine, les colonnes se sont érigées, se tiennent droit, ils grimpent au mur. Attention, ça s'est classé au patrimoine. Donc voilà, c'est cette expérience-là qu'on essaye de leur proposer.
C'est jusqu'à quel âge?
Ça dépend.
C'était une blague.
Non, parce que pour nous, c'est une question sérieuse dans le sens
où
à chaque fois on vient toucher des choses. Par exemple, on a trouvé intéressant que parfois ça puisse être transgénérationnel, donc c'est des plus âgés qui s'occupent des plus jeunes, parfois. Donc voilà.
Bon, donc j'ai une chance.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
C'est important pour vous de savoir danser?
Oui, c'est important parce que maintenant c'est une de nos principales distractions. Et puis c'est aussi une nécessité.
Comment une nécessité?
Une nécessité dans les soirées, dans les surprise parties, pour sortir une jeune fille, c'est une nécessité de savoir danser.
Et vous, mademoiselle, pourquoi voulez-vous savoir danser?
Parce que ça donne de l'aisance et que ça permet d'aller de partout avec les amis sans être gênée, puis que ça libère le corps.
Extrait d'une archive de Lina, ça date de 1961, je précise quand même. Danser tout le temps et qu'importe notre corps, c'est le sujet de Grand Bien Vous Fasse ce matin, sujet que nous évoquons avec nos trois invités de luxe, Rachid Oumradan, Marion Motin et Fovoto. Je voudrais juste vous lire quelques messages qui viennent d'arriver de la part des auditeurs et auditrices, ils sont très nombreux à réagir. Johan nous dit « Je danse rarement, mais je peux m'y mettre quand personne ne me regarde », comme quoi le poids de ce regard de l'autre est important. Et Cerise nous dit « Je danse sur les quais avec mon casque et puis petit à petit, on s'en fout un peu des gens ». Ça apporte vraiment une énergie hyper positive. Et hier, deux personnes en déambulateur ont levé simultanément les bras de leur déambulateur et dansé avec moi. Faut juste un petit peu passer le cap du quand dira-t-on. Mais vous avez tellement raison. Rachid Oumradan, c'est le hip-hop dans les années 80 qui vous a amené à la danse. Pourquoi cette danse en particulier? Elle représentait quoi? La liberté?
Oui, parce que donc au début des années 80, c'est l'arrivée du hip-hop en France, c'est encore un mouvement uniquement de contre-culture, un mouvement urbain. Il n'y a pas du tout de danse pour des plateaux encore, ou oui. Alors ça accompagne le rap de l'époque, les chanteurs de l'époque. Bah, ça nous parlait beaucoup, c'était dans les cités, là où j'ai grandi. C'était au moment du mouvement Black Blanc Beurre aussi. Je crois qu'on était cette génération d'enfants, de parents immigrés, qui avaient tout fait en se taisant. D'ailleurs, c'était souvent l'expression « te fais pas remarquer », oui. Etc. Et ensuite, il y a la génération de ceux qui ont voulu crier, qui sont mis à faire du rap, qui ont voulu danser, qui ont voulu prendre l'espace, qui ont voulu dire qu'ils existaient. Et je crois que voilà, ça résonnait chez l'ado de 10, 11, quoi, pré-ado que j'étais. Ça a commencé comme ça, et oui, c'était une façon d'exister.
Marion Motin, c'est, vous aussi, c'est un peu le hip-hop qui a quand même...
Complètement.
Qui a tout changé dans votre regard sur la danse. Ouais.
La musique d'abord, hein, mais James Brown, Michael Jackson, et puis le rap. Donc oui, c'est vraiment la culture hip-hop qui m'a bercée.
Vous avez une carrière très protéiforme, parce qu'il y a eu la danse classique au tout début, la découverte du jazz afro-brésilien, le rap, le hip-hop, donc vous avez fait des concours de hip-hop. On va vous voir dans des clips de stars internationales, je pense à Robin Williams, on vous a vu sur scène avec Madonna, vous avez chorégraphié des clips bon, qui nous ont marqué, Stromae évidemment, Christine and the Queens, entre autres, hein, tout ça, je résume, pardon, votre parcours. La danse, elle a toujours été omniprésente dans votre vie, c'est-à-dire que ça a été votre premier mode d'expression, à la fois dans vos colères et dans vos joies.
Ouais, toujours. Depuis toute petite, il y a vraiment eu cette résonance avec la musique. Et j'ai parlé très tard, même si je savais parler, mais j'avais un monde intérieur très développé. Et je crois que la danse m'aidait juste à exulter tout ce qui se passait à l'intérieur. Donc je réagissais par la musique qui venait résonner, et je m'exprimais par la danse. Et ça, la danse m'a tenue, je pense, émotionnellement, et elle me tient encore. C'est vraiment mon média de réalignement.
Oui, pour vous, connexion pour vous ancrer, ouais, c'est ouais. Ça, d'accord. Ouais. Et c'est autant dans la colère que dans la joie que
dans
vous avez besoin de ça. Ouais.
C'est dans toutes les émotions, l'ennui, la colère, la joie, la tristesse, tout ce que je traverse, en fait, je peux l'exulter avec mon corps.
Et donc après, à chaque scène et chaque danse que vous utilisez dans votre travail, c'est quoi? En fait, vous explorez des formes de corporalité qui sont très différentes?
En fait, j'explore mon corps, j'explore mes émotions et je suis très connectée à l'énergie avec laquelle je bouge, je vis. Et c'est en fait cette énergie-là qui va me faire prendre des formes, en tout cas de danse. Parce que je ne travaille pas sur la forme, je travaille vraiment sur le fond et l'énergie, par où ça passe dans mon corps. C'est hyper... c'est ça qui me fait du bien. Donc j'explore en fonction de mes états, en fonction de mon mood, en fonction de mon humeur. Et je vois où ça me mène dans la forme.
Favoto, je voudrais vous faire écouter quelques notes d'une musique. À mon avis, je pense que vous la connaissez. Sinon, mon effet est complètement
et
raté.
Si je ne la connais pas.
C'est assez pour moi.
ça doit être Giovanni Cordi.
Exactement.
Ouais, c'est ça, c'était chiant.
Mais c'était un peu pour le sourire, mais c'est une musique qui vous a accompagné quand vous étiez enfant, sur laquelle vous avez pu danser, c'est ça?
En fait, moi, si tu veux, je viens d'une famille, donc je viens de la campagne, et les femmes de cette famille dansaient, toutes les femmes dansaient. Et il s'est avéré que du coup, très très tôt, j'ai été danser, mais danser vraiment dans des... Tu vois, c'est des associations, c'est des amateurs, etc. Et en fait, mes parents, suite à ça, dansaient aussi la danse de salon, donc complètement niche encore à l'époque. Donc en fait, moi, j'ai quand même évolué dans quelque chose d'assez moderne jazz, danse de salon, mais très comme ça, bric-à-brac un peu, tu vois. Ouais. Et après, j'ai commencé à vraiment performer la danse de salon quand j'ai compris que ma rigueur m'amenait à des résultats. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ok, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. En tout cas, danser me procurait, moi, quelque chose de grande liberté. Et j'avais besoin de ça quand j'étais plus jeune. Enfin, ça m'a...
Mais alors, c'est ce que vous disiez, vous avez donc des grands-parents, des parents qui dansaient beaucoup, c'est un point commun avec vous, Marion Motin.
Oui, ils écoutaient beaucoup de musique et ils dansaient en soirée, oui.
Et la légende familiale raconte que le grand-père aimait bien, après le dîner, pousser un peu les meubles.
C'est ce qu'il me racontait, il me disait, nous, à notre époque, un dîner, on finissait en dansant, on mettait de la musique et on dansait.
Mais alors, si je vous pose cette question-là, c'est parce que j'ai l'impression quand même que c'est une histoire de transmission aussi, la danse, en tout cas dans vos deux cas. Est-ce que vous le diriez comme ça? Est-ce que vous le formuleriez comme ça?
Moi, c'est une histoire de transmission, mais c'est surtout une histoire aussi après de besoin. Ça a été vraiment. Enfin, moi, je me suis jamais dit ah ouais, je vais aller danser. Non, c'était j'avais envie d'aller danser. Ouais. Et ça, je l'ai jamais perdu. Et c'est assez fou. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis que je suis enfant. Et vraiment, c'est pas ce truc de ah oui, je sais que j'ai un rapport à la danse qui est assez viscéral.
Ouais.
Et même, tu vois, quand je le prends en métier, oui, c'est mon métier, mais c'est surtout un besoin, moi, que j'ai de danser.
Quelque chose de vital, en fait.
Ouais.
J'aimerais qu'on donne la parole à Sylvie, qui nous appelle de Châteauroux. Bonjour, Sylvie.
Bonjour. Bonjour à tous.
Est-ce que je peux donner votre âge, Sylvie? Comme vous l'avez dit au standard,
oui.
Je me permets.
Oui,
vous avez 60 ans. Hein. Vous avez 60 ans. Et vous dansez depuis que vous êtes enfant, en fait.
Oui, c'est ça. C'est marrant parce que mon histoire se rapproche un peu de ce que je viens d'écouter. Mes grands-parents étaient des danseurs de tango invétérés. Et tous les week-ends, j'allais chez mes grands-parents et on dansait avec mon frère. Et ma grand-mère nous a appris toutes les danses, en fait. Et c'était formidable. Et moi, j'ai gardé ce besoin de danser. Alors évidemment, j'en ai pas fait mon métier, j'en ai pas fait. Mais dès qu'il y a de la musique quelque part, je danse. J'adore ça et je ne sais pas si je danse bien ou si je danse mal.
Et on s'en fout.
Oui, c'est ça.
Je danse et ça me rend heureuse. Ça me fait justement ce petit truc dans le ventre.
Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné au Standard de France Inter. Merci. On vous souhaite une très bonne journée, Sylvie. Rachid Mouhamdan, dans votre cas, est-ce qu'il y a une histoire de transmission ou pas du tout dans la danse?
Non, pas du tout.
C'est vous qui transmettez aujourd'hui, c'est ça?
Oui, mais même si j'étais toujours assez impressionné parce que je viens d'une famille avec une éducation musulmane assez classique, en tout cas du côté de ma mère. Mais j'étais toujours assez impressionné des mariages musulmans, vous savez, où ces mères, ces femmes que vous voyez souvent dans le quartier autour de vous, et tout d'un coup, elles se mettent à danser, il y a des tremblements, il y a des déhanchés, je vois ma mère qui souvent est fatiguée, voilà, qui devait s'occuper des 6 enfants.
Et qui se réveille.
Et qui se met à faire des choses, je me dis, mais waouh, c'est encore mieux que les shakings de Elvis Presley, ou de Prince, ou de je ne sais qui. Et donc, en tout cas, s'il y a eu une transmission, elle était assez inconsciente et pudique, je dirais. Ah non, après, c'est les frères et sœurs. Et c'est vrai qu'avoir été dans une grande famille, c'était assez drôle, parce que ça allait de ma toute grande sœur, elle, c'était plutôt les Bee Gees, Travolta, un frère New Wave, une autre beaucoup plus funk et soul. Donc, c'était cette diversité-là. Et je pense que la danse, c'est ça, en fait. Et on vient encore de l'entendre avec cette auditrice, on s'en fiche. Quoi. C'est pas bien ou mal, c'est du divers. Et je trouve qu'il y a plein de mouvements de danse qui nous le rappellent aujourd'hui. Plein de communautés, en fait, qui continuent d'amener des espaces de liberté. Le walking, le voguing.
Danses qui permettent d'affirmer des identités aussi.
Exactement. Hein. Ouais. C'est toujours ce qu'il y a derrière. Pour moi, la danse, c'est synonyme de liberté dans bien des cas, en tout cas d'une quête de liberté et tout le temps, oui, de continuer de prendre encore plus conscience de qui on est dans notre société, dans toutes nos formes de diversité. Je trouve ça toujours réjouissant et je crois que c'est... j'ai eu un prof de chant, c'est intéressant, parce que moi, j'étais un peu complexé avec ma voix. Il me disait aussi, un jour, on m'a dit « Non, mais toi, t'as pas de voix, etc. » Et tout de suite, il m'a rassuré en disant « Tu n'as pas de voix, tu as ta voix. Donc maintenant, c'est qu'est-ce que tu en fais ?» Et ça, de pouvoir l'appliquer à tous les corps, à tous les âges, je le redis, et je vous le proposais, hein, chère Eva, je pense qu'il faut trouver l'entrée. Il faut d'abord se mettre à l'écoute de qui on est, pas vouloir imposer une danse, un modèle, une image de soi, une image des autres, mais vraiment prendre ce temps de l'introspection, de libérer son imaginaire. Et son imaginaire, Marion l'a bien dit, parfois on ne sait pas toujours quoi en faire, surtout quand on est jeune, quand on est adolescent, et puis tout d'un coup, il va prendre des voies inattendues. Et puis même chez les pros, hein, au bout d'un moment, vous savez, tout le monde est très très fort sur scène. Ce qui va faire la différence, c'est la puissance de l'imaginaire. C'est-à-dire, une fois qu'on a un corps extrêmement lax, qui maîtrise énormément de techniques, ce qui va créer la curiosité du regard chez le spectateur, c'est l'inattendu, et après on se met à travailler son imaginaire.
Et,
les sportifs le disent très bien autrement, eux ils parlent du mental, c'est-à-dire comment ils arrivent à faire des choses inattendues d'eux-mêmes, c'est dans ce travail sur le mental, et je pense que c'est toutes ces portes-là qu'il faut ouvrir.
Ouais. Oui. Raconter des histoires et utiliser le corps quand les mots ne viennent plus aussi.
Ça, je le... attention à ça, parce que, et vous nous l'avez dit hors émission, Eva, vous nous avez dit, je cherchais vraiment à comprendre les histoires. Oui. Moi, je pense que la danse, bon, c'est vrai qu'on est dans un pays où culturellement, depuis notre tendre enfance, quoi, quand on a eu droit à ça, quand on a des parents qui savent lire et écrire, on vous lit des histoires pour vous endormir. Il y a cette notion du récit, de l'histoire qui prend beaucoup de place. On est quand même, alors, il y a de la danse narrative, hein, mais c'est aussi un art abstrait. Quand vous écoutez une musique, vous vous dites pas, tiens, où est le sujet, qu'est-ce qu'on veut me raconter. Non, vous vous laissez porter en peinture. La puissance, encore, dont parlait Marion tout à l'heure, j'écoutais avec attention quand elle disait, c'est cette intériorité qui a besoin de s'exprimer, vous savez, c'est comme une toile de Pollock. C'est-à-dire, en fait, le résultat, c'est le résultat de l'énergie, de ce qu'il a lancé sur la toile. Donc, ça nous raconte, ça nous fait pas récit, ça nous fait pas récit au sens traditionnel, ouais. Mais ça nous raconte quelque chose de la personne. Et oui, je crois que la danse, c'est ça, il faut s'autoriser à être dans cette abstraction.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Moi, on m'a dit plusieurs fois, quand tu danses, on oublie que t'es gros.
Mon corps, j'ai pris conscience qu'il était en homme très très jeune. Hein. De par les regards, de par les moqueries également. Et en fait, la seule façon de m'en sortir dans cette situation, c'était de mettre de la musique et de danser. Ce que je pratique, ça s'appelle du popping. L'idée, c'est de contracter et décontracter le muscle sur la musique. Du locking également. C'est un style qui est plus dans le smile, dans le fun, dans l'énergie, dans le comique. Je dirais que c'est une danse qui m'est propre. Hein, parce que forcément, avec le corps que j'ai, ce corps avec ses formes et comment il bouge dans l'espace, comment il réagit à la musique et comment il donne cette énergie-là à travers les émotions et l'interprétation. Ben forcément c'est mon identité et du coup ça crée quelque chose d'unique en fait.
La voix de Sofiane Chalal, très présente sur les réseaux sociaux et formidable danseur. La danse c'est notre sujet du jour avec nos invités Fovoto, Marion Motin et Rachid Oumradan. Vous êtes très nombreux à réagir, on reçoit beaucoup de messages et beaucoup d'appels. Je voudrais lire, parce qu'il y a des messages qui sont vraiment très, très forts et très émouvants, je voudrais vous lire celui de Lucie qui nous dit « La danse permet d'exprimer au-delà des mots ce qu'on ne peut percevoir qu'avec le corps. J'accompagne des personnes à danser pour un proche décédé. Quand elles savent pourquoi et pour qui elles vont danser, le geste émerge de lui-même. Ce sont des moments d'une grande intensité. La danse a une importance dans beaucoup de civilisations, ritualiser et accompagner les passages de vie, les au revoir et les renouveaux. Merci infiniment pour tous vos messages. J'aimerais justement qu'on parle de ces corps singuliers, ces corps différents qui dansent aussi. Fovoto, vous avez dansé notamment avec Samuel Guédari, qui était un nageur, qui est un nageur paralympique, pardon, amputé d'une partie de la jambe. Quel souvenir vous gardez de cette expérience dans Danser avec les stars ?
Déjà, c'est que je me suis dit quelle chance de danser avec cette personne, aussi parce que du coup j'allais devoir créer différemment. Et en fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Rachid, c'est vraiment ce truc de construire quelque chose pour l'autre et par rapport à l'autre. C'est-à-dire, en fait, tu prends les forces d'une personne et c'est comment tu mets en valeur cette personne. Donc après, c'est... toi, tu aides la personne à évoluer, à grandir et à se sentir bien danser, tu vois. Et ça, je trouve ça plutôt très intéressant. C'est-à-dire que tu te sers vraiment des caractéristiques de l'identité pour débloquer quelque chose.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corps empêché dans la danse.
Pour moi, non.
Pour vous, non.
Pour moi, tout le monde peut danser et ça rejoint toujours ce truc d'oser, de ne pas... tu vois, d'arrêter de se juger et tout ça, faut juste y aller, bouger, tout le monde peut bouger, hein. Tu vois, déjà bouger une épaule, c'est danser. Donc après, peu importe le corps, c'est l'important, c'est de... ouais, le battement du cœur, le rythme, l'envie, quoi.
Ouais. Vous avez aussi accueilli cette année, et ça m'a rendu folle de joie, je dois le dire, pour la première fois, une personne trisomique, la formidable Mayan, comédienne qu'on a vue dans Un petit truc en plus. Vous l'avez vue évoluer au gré de l'émission, vous l'avez vue se transformer ou pas ?
Je l'ai vue se transformer, je l'ai vue être de plus en plus en sécurité. Donc ça, c'était très beau à voir. Et ce que j'ai surtout vu, c'est qu'en fait, elle prenait énormément de plaisir à être sur scène. C'est-à-dire que pour moi, cette jeune femme est une actrice déjà, mais du coup c'est une showgirl aussi, c'est-à-dire que elle a été très bien accompagnée aussi par Christophe, mais du coup j'ai adoré voir en tout cas le bonheur qu'elle a eu à performer, et ça c'était un souvenir
communicatif par ailleurs, un bonheur communicatif, donc c'était vraiment absolument formidable, enfin moi j'ai trouvé ça formidable. Rachid Oumradan, vous n'avez de cesse de multiplier des projets auprès de publics qui sont très différents, de tout âge, toute nationalité, de tous les milieux sociaux aussi, nous en avez parlé tout à l'heure, et de tous les corps aussi. Vous avez travaillé notamment avec la compagnie Kandoko, c'est ça, une compagnie qui est composée à 50% de personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette expérience-là ?
Parce que comme je le disais, je pense qu'il y a de la... toute personne a quelque chose à partager. Et là, bon, très sincèrement, je répondais à une invitation de la compagnie qui effectivement savait que je pouvais travailler avec des enfants, des personnes âgées, des anciens boxeurs. Et ils m'ont proposé de venir les voir. Et c'était pas la première fois que je travaillais avec des personnes porteurs de handicap. Mais là, on est avec des personnes porteurs de handicap professionnelles qui ont déjà réalisé beaucoup de choses dans leur parcours de vie. Et c'est là que j'ai rencontré Annie Hanauer, qui est donc une danseuse américaine qui est née avec un bras court et qui... et voilà, qui a dû inventer une façon... de danser singulière, qui lui est propre. Quand Fauve disait bouger une épaule, c'est déjà de la danse. C'est troublant d'ailleurs parce que elle a développé une telle façon de danser. Elle est plutôt dans des choses très mélodiques, très continues comme ça. Et on a fait un spectacle ensemble, parce qu'ensuite, je lui ai demandé de rejoindre la compagnie. Avec ses singularités, ouais. Mais en tant que personne, quoi, parce que cette particularité. Et les gens sont toujours impressionnés par ses danses de bras.
Bien sûr.
Et c'est dingue de se dire que... Parce que, oui, en fait, on se rend compte que le bras, ça part de plus loin. Et ça protège. D'ailleurs, souvent, des personnes ne voient pas tout de suite la prothèse en fonction du costume. Et tout d'un coup, elle enlève le t-shirt, elle se dénude un peu et on se rend compte que la prothèse fait tout le bras. Il y a eu aussi une petite anecdote. Une fois, on était on jouait à Hambourg, je crois. Il y a une personne qui voit Annie sur scène avec nous. C'était une pièce pour 16 personnes. Et qui, avec beaucoup de précautions, mais ose cette question. En disant, est-ce que vous devez adapter les danses pour la personne que l'on voit avec ça? Et c'était pas une boutade, mais j'ai répondu en disant « Non, non, souvent je dois adapter pour les autres, pour qu'ils arrivent à la suivre. » Parce qu'en fait, c'était une pièce très, très athlétique, et c'est quelqu'un, effectivement, qui sur scène, est très puissant dans quelque chose de l'ordre de l'effort. Mais c'est vrai qu'on est, en entendant ça, toujours, c'est... moi, je crois que voilà, ce qu'on a pour habitude de considérer comme des fragilités, c'est pas toujours synonyme de faiblesse. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez été capable de construire ensuite, ça peut vraiment devenir une force. Et d'ailleurs, je pensais pas le faire, mais j'en profite. À la rentrée, là, je remonte une pièce que j'ai faite il y a 10 ans, qui réunit Annie Hanauer, cette personne née avec un bras court sur scène, et Laura Juodkaitė. Laura Juodkaitė, une danseuse lituanienne qui tourne sur elle-même depuis l'enfance. À la base, c'est ce qu'on appelle un trouble stéréotypique. Et ça crée un bien-être. Elle en a besoin.
Elle a besoin de tourner sur elle-même.
Voilà, ça l'apaise, ça la tranquillise. Et en fait, le fait de faire ça toute sa vie, elle a développé un mouvement complètement fou. Il faut vraiment venir la voir. Alors souvent, les gens font le parallèle. Ah, tu veux dire comme des derviches? Non, non, c'est bien plus sauvage, complexe, désarticulé. Et c'est d'une puissance. Ça fait souvent, j'ai d'ailleurs, des émotions importantes. Et là aussi, elle aurait pu... D'abord, elle en a eu honte. Hein. Adolescente, elle cachait cette pratique, elle ne la partageait pas. Et elle s'est mise à faire de la danse à côté. Et un jour, elle a réuni ces deux choses. Et là, vraiment, ce duo de femmes, c'est de voir comment des personnes qui ont, on va dire, des particularités, des singularités, je veux dire, des choses qui pourraient apparaître comme problématiques au début, elle, ça leur a permis de complètement se réaliser. Mais là, voilà, des gens qui ont su en faire un acte professionnel, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense qu'effectivement, tous les corps, une fois de plus, il faut trouver le chemin, il faut trouver ce qui fait sens pour vous. Et c'est ça à danser.
Marion Montin, vous avez l'impression que les danses institutionnelles s'ouvrent aussi à tous ces corps-là et qu'on a une diversité des corps un peu plus grande sur scène. Je vous vois faire la moue.
Non. Oui, pas et totalement. Non, en fait, c'est, ouais, c'est pas ça. C'est que c'est tellement encore moulé pour certains corps que c'est compliqué d'accueillir une diversité dans certaines scènes. Moi, c'est vrai que je viens de la culture hip-hop et en fait, c'était
naturel.
Vous avez tous
les corps,
en fait,
ouais,
j'ai grandi avec, avec cette ouverture et la possibilité d'avoir le corps qu'on a et d'en faire. Justement, Rachid, tu disais... ces faiblesses, c'est pas toujours les défauts sont pas toujours des faiblesses.
Des fragilités sont pas toujours des faiblesses.
Et c'est ça, les fragilités. Et en fait, dans le hip-hop, il y a vraiment ce ta fragilité, ça va faire ta force en fait. Quand on voit B-Boy Junior qui a sa jambe un peu atrophiée, qui est un monstre de la danse, Lilou Ramdani qui est petit, qui a les bras longs, il fait des clés incroyables quand il break. Enfin, ça développe des singularités et des spécificités très fortes. Et en fait, le hip-hop, c'est ça, c'est de ta soi-disant faiblesse en société, tu vas en faire une force. Et tous les corps sont les bienvenus. Et moi, j'ai grandi avec tout type de corps. Donc
Vous disiez dans une interview, ça m'a fait sourire, mais je trouve que c'est très puissant. Vous dites, en danse, on a le droit d'être laid, vieux, maigre, d'avoir la peau qui tombe, et c'est beau.
Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est incarné et qu'on est OK avec ce qu'on est, c'est ce qui se transmet. Et grâce à la danse, on peut transmettre une sorte de plénitude et d'acceptation de son corps. Et je le vois tous les jours, et je trouve ça, je trouve que c'est un des rares médiums qui vecteur qui permet de, de transmettre.
Et je trouve que ça transpire beaucoup dans Danse avec les Stars, cette faculté qu'on a à accueillir tous les corps et que tous les corps peuvent danser. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît dans cette émission, mais moi, en tant que téléspectatrice, c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut se reconnaître dans le corps de l'autre, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'est génial d'avoir cette émission sur cette chaîne. C'est-à-dire que c'est vraiment le message, c'est tout le monde peut danser, peu importe ton âge, peu importe ton physique, etc. Ça, c'est plutôt très intéressant. Et tant mieux si ça te plaît. Je ne sais pas comment plus développer que ça, mais oui, elle est intéressante pour ça.
Est-ce que vous, vous avez créé une compagnie cette année, en 2025, Same But Be Different. Same But Different.
Ouais.
Est-ce que c'est un travail qui vous intéresserait d'aller recruter des corps singuliers?
Oui. Après, moi, c'est surtout un peu ce que disait Marion. Tu vois, moi, c'est vraiment l'interprétation qui m'intéresse. Ouais. Donc, peu importe, j'allais dire... Après, il faut que le cœur soit... assez homogène, mais moi j'aime les personnalités, quoi. Donc c'est vraiment je cherche moi des danseurs acteurs, parce que moi c'est vraiment ce qui me passionne, c'est vraiment ce fait aussi de pouvoir raconter des choses. Donc c'est vrai qu'on est un peu différent par rapport à ça. Moi c'est vrai que j'ai besoin de me raconter une histoire pour qu'elle passe. Après, elle est comprise ou pas, peu m'importe, mais moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur de ma tête et de mon corps et de mon cœur. Mais oui, après, tout est très ouvert. Mais à partir du moment où, quand je regarde le danseur, moi, j'ai un truc d'incarnation et d'interprétation, quoi.
Ouais, mais c'est logique. Il y a aussi un projet au départ, quoi.
Ouais. Après, moi, c'est vraiment le goût que j'aime.
Oui.
Eva Rock. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Une dernière question, si je puis me permettre, Billy. Qu'est-ce que ça te fait, au juste, lorsque tu danses?
Je sais pas. Ça me fait plutôt du bien. Au début, je me sens un peu raide. Mais quand je suis lancée, alors j'oublie tout le reste. Et c'est comme si je disparaissais. J'éprouve comme un changement dans mon corps. Une sorte de feu dans tout mon corps. Je suis simplement là. Je vole, juste comme un oiseau. Ou comme de l'électricité.
Extrait du film Billy Elliot. C'était en 1999 et Marion Motin connaît le film par cœur. Je vous ai vu bouger, Marion Motin. Vous avez le droit de danser dans ce studio, vous savez. Hein. Moi, j'ai fait un mouvement d'épaule, donc j'ai l'impression de savoir danser, comme m'a dit
Fouoto. Vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait des mouvements de bras, plein de choses.
Oui, mais ça, c'est pour dire qu'il faut lancer les sons, tout
la
ça.
Danse,
petite question d'ailleurs, une petite parenthèse. Mais est-ce qu'il y a un film sur la danse qui vous a marqué, Rachid Oumradan? Ou Fouoto ou Marion Motin, si ça arrive plus vite.
Moi, j'ai le souvenir de Lily, c'est une comédie musicale, tu vois, mais donc c'est des marionnettes même, tu vois. Après, il y a tout ce qui est Dirty Dancing, il y a les showgirls et tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment une culture du film danse, mais parce qu'encore une fois, campagne, parce que j'avais que accès à ça, tu vois.
Ouais, mais c'est
Moonwalker, moi.
Pardon ?
Je suis allée le voir au cinéma, Moonwalker.
Moonwalker, ouais.
Wow, avec de Michael.
Ouais.
Ça m'a transcendé.
Michael Jackson,
pour ceux
qui ne connaissent pas.
Ouais. Moi, je pensais, c'est Soleil de nuit.
Entre
Baryshnikov, quoi, voilà, c'est, il y avait le tap dance, la danse classique, toute la culture de Broadway qui rencontre cette autre danse. Non, c'était, je me rappelle combien ça m'avait captivé.
Et les comédies musicales, est-ce que ça vous a marqué ou pas?
Side Story.
Ouais.
Je le regarde régulièrement, West Side Story, je le montre à mon fils. Je trouve que c'est quand même très, très, très réussi.
Ouais. Quel âge il a, votre fils?
Il a 8 ans et demi.
Et comment il réagit quand il regarde West Side Story?
C'est drôle, il m'en a reparlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, maman, la chorégraphie... Il retient tout. Après, il voit...
Je peux raconter ce que vous venez de faire? Vous venez de faire la chorégraphie en me parlant du début.
Claquement de doigts.
Et
il me l'a refaite il n'y a pas longtemps. Il a une mémoire visuelle très développée, mais parce qu'il est... confronté à la danse. Il est formidable, bien sûr. Non, mais il est confronté à la danse depuis qu'il est tout petit, donc il a vraiment une mémoire visuelle des chorégraphies, il retient les choses et il est hypersensible à ça.
Alors, vous savez, on reçoit... Pardon, Rachid.
Non, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est beau de voir combien la danse est présente dans les films, films identifiés, comédie musicale et autres. Mais là, le film Encore, qui a été ce succès...
De Cédric Clapiche avec Marion Barbeau.
Évidemment, ouais. Audiard aussi, avec Damien Jallet, oui, dernièrement. Je trouve que... je crois que de plus en plus aussi d'autres artistes se rendent compte de la puissance de l'expression de la danse, en fait. Et il y a une culture qui est en train de grandir et je trouve que c'est réjouissant.
On a reçu énormément de messages. Encore une fois, je le dis, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Marie nous dit par exemple, mon père est en EHPAD où on leur propose des danses sur chaises roulantes et c'est très beau à voir et le visage de ces personnes très âgées, voire centenaires, quand ils dansent est absolument magnifique, je veux bien le croire. Fanny nous dit, je danse depuis 45 ans, j'adore le moment de la mémorisation d'une chorégraphie qui nous vient de l'extérieur et ce langage qui vient en nous. On est vraiment dans un autre espace-temps à ce moment-là et quel plaisir. On pourrait parler pendant des heures de comment vous créez et comment vous transmettez aussi vos chorégraphies. Si vous deviez coller un mot et un seul à celui de danse, ce serait lequel, Marion Motin ?
Liberté.
Liberté,
ouais, ouais. C'est vraiment un espace de liberté très intime.
Fovoto ?
Ouais, ressenti, moi, j'avoue. Un mot, c'est ressenti.
Tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, en fait. Ouais. Le truc au ventre, quoi.
Ouais. Faut que ça boue, ouais.
Rachid Oumradan.
J'avais dit liberté tout à l'heure, mais moi j'irais comprendre. En fait, je trouve que la danse nous permet de comprendre tout ce que parfois on n'arrive pas à comprendre de la vie, dans d'autres situations, quand on a été formé à plein de savoirs. Et tout d'un coup, il y a des choses qu'on va comprendre par le geste, par d'autres façons d'être avec les autres, par ces états dans lesquels nous plonge la danse, et on comprend autrement les choses, et ça, je trouve ça magnifique.
Ouais. Vous savez, on a beaucoup utilisé pendant la semaine, dans cette émission, le mot interdépendance. Est-ce que vous pourriez le réutiliser au sujet de la danse, Rachid Oumradan? Vous l'entendez comme vous voulez d'ailleurs.
Oui, c'est ce que je vais vous dire parce que c'est complet. Mais effectivement, oui, c'est un art du liant, la danse. Donc évidemment que ça doit nous interroger sur avec quoi on interagit tout le temps. J'étais à Avignon la semaine dernière, j'ai vu un sublime spectacle de Mohamed El Khatib et Israël Galvan qui s'intitule Israël et Mohamed. Et on voit comment ces deux grands artistes, un metteur en scène, auteur, l'autre danseur, chorégraphe, se sont affirmés, se sont construits dans leur art, mais avec tout ce qui les liait à l'environnement social. Là, c'est vraiment autour de la figure du père et dans une adversité. Et comment le parcours d'Israël Galvan, ce danseur qui dépendait de cet environnement, a eu à s'affirmer en allant remporter tous les plus grands concours du monde en flamenco pour pouvoir ensuite dire c'est tout ce que je ne ferai pas, ou plutôt comment j'utiliserai cette chose-là pour dire autrement ce que j'ai besoin d'affirmer. Donc, moi, je ne sais pas si ça répond à votre question sur l'interdépendance, mais en tout cas, oui, c'est tout le temps une façon de penser les héritages, ce que l'on a compris, sa psychologie, son rapport aux autres. La danse, on est toujours au cœur de ça, parce que je le redis, on est en train de toucher à quelque chose qui est profondément intime, notre corps.
Chaque jour, vous savez, on termine l'émission avec vos coups de cœur, chers invités, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de poursuivre aussi la réflexion autour de cette thématique de la danse. C'est peut-être un film, un livre, une chanson, une citation, ce que vous voulez. Marion Motin, vous avez pensé à quoi ?
En fait, le truc qui me vient, mais ça n'a pas un lien direct, mais en même temps, si, c'est Visage retrouvé de Wajdi Mouawad, parce que je l'ai fini là, il n'y a pas longtemps, et qu'en fait, déjà, je suis très fan du travail de Wajdi. Et ce personnage singulier, cet enfant dans le livre, et ben en fait, il s'écoute, et je le trouve assez libre dans un monde chaotique, et il s'écoute, et ça m'a sensibilisée parce que je me suis retrouvée un petit peu dans ce côté... quand on est enfant, on est un peu perdu dans un monde chaotique parfois, et d'avoir la force de s'écouter, d'écouter ses sensations, de poursuivre son chemin et d'aller vers l'inconnu ou d'aller vers... je trouve que c'est le travail qu'il y a à faire aussi en danse, dans le sens où pour moi la danse c'est ça, c'est s'écouter et marcher sur cette route. On ne sait pas où elle va, mais on y va.
Fovoto, à quoi ça vous a fait penser notre conversation ?
À quoi ça m'a fait...
Il y a un film, un livre qui vous...
Non, moi,
qui vous vient.
Le film que je conseille, c'est justement pour danser, c'est le documentaire de Wana Rin sur le Gaga. Je trouvais ça plutôt intéressant, je l'ai vu il y a très longtemps, mais j'aimais bien cette communion entre les gens. En tout cas, c'est un très bon moment, ce docu. Là, voilà.
Rachid Oumranane, on reste sur Mohamed El-Khatib ou vous avez un autre, un autre conseil en quelques secondes?
Non, bah, tiens, pour glisser vers... c'est pas tant une œuvre, c'est une personne. C'est Bachar Al-Belbessi qui a été victime du bombardement au café Al-Baka, qui est danseur, chorégraphe, qui partageait la danse pour les enfants à Gaza sur les sites bombardés, qui a toujours fait acte de résilience avec ces jeunes. Aujourd'hui, on essaye de le rapatrier. Il est à deux doigts de perdre sa jambe. Je sais que les autorités sont en mouvement pour rendre les choses possibles, mais c'est une grande pensée pour lui et surtout lui dire qu'on l'attend et qu'on espère qu'on va pouvoir l'accueillir très vite et faire en sorte de le soigner et de reprendre la danse avec lui.
Merci infiniment pour, et on finit sur ces mots très forts. Merci à tous les trois infiniment pour cette émission.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.